vendredi 12 octobre 2012. Vous écoutez La Vie en BD. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, une autre occasion de plonger dans l'univers du 9e art de la bande dessinée. On parlera de différents univers aujourd'hui, notamment, évidemment, on est en plein Festival Québec en toutes lettres, alors ce personnage, cet auteur, cette légende qui est de passage dans la capitale, Jean-Claude Mézières, et un de nos collaborateurs prépare une grande rencontre avec lui la semaine prochaine. Il s'agit de Michel Giguère dans le cadre de ses rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et on profite de cette occasion-là pour dresser un portrait de M. Mézières et de ce qui fait de lui une légende dans la sphère de la BD et de ce pourquoi, si vous ne le connaissez pas, vous devriez le connaître. Ça, ce sera en fin d'émission. Et d'ailleurs, on aura l'occasion, nous ici à La Vie en BD, de rencontrer M. Mézières au cours de son séjour à Québec et on vous proposera cette entrevue d'ailleurs au cours des prochaines semaines. Également, nouvelle collaboration à l'émission, celle de Mathieu Place qui explorera en notre compagnie l'univers de la BD indépendante américaine, donc le volet anglophone de la bande dessinée, mais pas les comics, l'autre production BD-esque américaine notamment. Et aujourd'hui, mais pour commencer, on reste dans le volet emblématique, on va parler de Robert Crumb, de Daniel Klaus et de Harvey Picker. Également, on va parler BD avec Anne-Marie Olivier, ses commentaires pour cette semaine. Et côté rencontre, on a reçu une très jolie bande dessinée jeunesse il y a quelques temps. Elle est déjà sur les étals des libraires. Il s'agit de Quête, tome 1, Tombé du ciel. Alors, la dessinatrice Minnie Kim sera avec nous pour nous présenter cette initiative-là. Alors, ceci pour l'émission de cette semaine. Et sinon, avant de se lancer en musique, deux petites notes un peu tristes. Deux petites notes tristes, point. Pas besoin de les quantifier, deux décès dans les dernières semaines. Tout d'abord, mentionnons le décès de M. Bruno Lefloc, qui est décédé le 5 octobre dernier. Donc, Le Floc qui était dessinateur, scénariste, on lui doit notamment Au bord du monde, une invitation à errer dans les Landes ou à prendre la mer de frais matin. On lui doit aussi Trois éclats blancs qui avait pour lequel il avait remporté le prix René Goscinny du meilleur scénariste, c'était en 2004. Et également, on en a parlé ici l'année dernière, donc Chronique Outre-mer, trois tomes parus jusqu'alors chez Dargaud, une épopée maritime marquée par le Corto Maltese d'Hugo Pratt, une belle série d'ailleurs. Alors voilà, donc adieu Monsieur Le Floc. Et également, autre décès, c'est pas une belle semaine de ce côté, disparition donc du dessinateur Pat Mallet, né en 1941, qui avait étudié à l'École des arts appliqués de Paris en même temps que Jean Giraud et Jean-Claude Mézières. Pat Mallet qui avait créé les aventures de Peg le Robot, les aventures de Xing et Xot également pour le magazine Spirou, les aventures de Zoom le Vénusien pour Pilote. Alors voilà, donc Pat Mallet qui également est disparu cette semaine. Alors, sur ces notes peut-être un peu plus sombres, on s'en va en musique. Cette semaine, ce sera l'univers musical de Miss Mai qui nous accompagnera au fil de l'émission. Et on commence immédiatement avec un premier extrait au titre, ma foi, enchanteur. On écoute Cité d'or. We'll be right back. voilà donc extrait de Miss May tiré de son album Rêve. Et tout l'album est comme ça d'ailleurs. On aura une belle émission côté musical cette semaine, c'est clair. Une artiste de Montréal. Et on poursuit dans nos pérégrinations BDS, que cette fois en compagnie d'Anne-Marie Olivier qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour Raymond.
Ça va bien?
Oui, merci.
Et Anne-Marie, grosse semaine également. En fait, il faut dire, dans le cadre de Québec en toutes lettres, Jean-Claude Mézière, et notamment, on peut le mentionner tout de suite, séance de dédicace, je pense que c'est ce samedi, là, chez Philactère.
Oui, demain, donc, de 13h à 14h30, on est très contents. Visite rare au Québec, donc, c'est vraiment un rendez-vous.
Et on va trouver quel album de Mézière on veut se faire dédicacer, ça sera la grande question.
C'est sûr que les gens sont invités à porter leurs albums. Là, on est tout à fait conscients que ça reste des albums qui sont probablement beaucoup dans les bibliothèques familiales. Donc, y a
oui,
pas
mais
de problème
qui sont réédités quand même assez régulièrement aussi. Donc, si on n'en a pas encore, il y en a sur le marché également.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et, on va en avoir de disponibles demain aussi.
Alors, ben voilà, donc on rappelle les heures, c'est?
De 13h à 14h30.
Voilà, chez Philactère, donc sur la rue Saint-Joseph. Et Anne-Marie, cette semaine, deux bandes dessinées sur lesquelles notre regard se portera. On commence avec Comics Remix, l'intégrale de Hervé Bourris, ça c'est chez Dupuis.
Exact. Donc, c'est l'intégrale qui vient de sortir. On avait cette série-là qui était disponible en trois tomes, qui datent de 2005, 2006 et 2007. Hervé Bourris, donc, je vous fais un petit topo de l'histoire, le synopsis. On est dans une cité qui s'appelle Towerville, et cette cité-là est en deuil parce que le super-héros célèbre et le plus populaire qui s'appelle Mister Mercure et qui régent, dont qui est un régent de la cité, est retrouvé mort carbonisé. Et sa veuve qui est restée seule avec leur fils qui lui ne semble pas avoir hérité des pouvoirs de son père, du moins pour l'instant. Par contre, pendant ce temps-là, dans l'ombre, on retrouve évidemment une petite faction dissidente de super-héros rejetée par la corporation et qu'on appelle les clandestins, va prendre contact avec la veuve et Mister Mercure, son mari, aurait été le chef de la série des clandestins. Donc, voilà le topo pour le début.
Donc, c'est fidèle au titre. Enfin, on est dans un univers de comics, là.
Tout à fait. Ça a beau être une reprise un peu de l'univers de Marvel à la française, mais ça a tout à fait rien à envier, donc, au Marvel de ce monde, parce que Hervé Bourris est totalement en maîtrise dans cette série de bandes dessinées-là. Il propose une galerie de personnages extraordinaires, complètement hallucinants, surtout très drôles aussi. Les pouvoirs qu'on leur donne sont assez extravagants, c'est très, très créatif. C'est vraiment une belle série à découvrir.
Et justement, j'imagine qu'en plus, en version intégrale comme ça, ben, ça nous permet de vraiment suivre, de vraiment découvrir la richesse du scénario.
Oui, exactement. Donc, on n'a pas à attendre, bien sûr, d'avoir les trois tomes. Ils sont déjà tous là. C'est sûr que dans les deux premiers tomes, on installe toujours une intrigue qui est assez solide dans ce cas-là. L'auteur s'amuse follement, là, tu sais, à semer des fausses pistes. Il y a des rebondissements assez constants. Puis, avec le troisième tome, donc la fin du livre, on amène le dénouement. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les questions qu'on se pose au fur et à mesure de la lecture trouvent une réponse. C'est sûr que dans quelques cas, quelques intrigues, ça vient des fois un peu rapidement, mais bon, c'est rien pour enlever au plaisir là, de cette bande dessinée-là qui est franchement rigolote, assez déjantée aussi. Puis Comics Remix, donc c'est ça, ça se veut une parodie des univers de super-héros, mais je vous la conseille.
Oui, donc si on aime l'univers, eh ben on va s'y retrouver, on va jouer le jeu des correspondances. Si on le connaît moins, ben ça peut être un autre regard sur un univers qu'on connaît peut-être un peu de loin, là.
Oui, exactement. Puis on est aussi, j'ai pas mentionné le dessin, mais c'est un dessin qui est très très beau, un trait un peu nerveux, assez épuré, très efficace aussi, malgré le fait qu'il y a beaucoup de personnages, ils sont tellement différents les uns des autres, donc ça amène une lecture qui est très très lisible, c'est reconnaissable, puis il y a beaucoup de couleurs, c'est très punché, super bande dessinée.
Donc ça c'est Comics Remix donc d'Hervé Bourris.
Oui.
Et autre titre pour cette semaine, Chabouté, un peu de bois et d'acier.
Voilà, donc c'est tout chaud, c'est arrivé aujourd'hui en librairie, donc c'est vraiment bien. Chabouté, donc, aux éditions Vent d'Ouest. Pour ceux qui connaissent Chabouté, vous allez reconnaître, bien sûr, les codes de la bande dessinée que Chabouté utilise régulièrement. Donc, dans ce cas-ci, il va nous montrer encore sa très grande maîtrise du noir et blanc. Chabouté, c'est un maître de ce type de dessin-là. Et la bande dessinée Un peu de bois et d'acier n'a pas de dialogue, mais un scénario très clair, en fait. Ce n'est pas inaccessible. C'est vraiment l'histoire d'un banc de parc, tout simplement, qui va voir défiler des gens au fil des heures, des jours et des saisons, des années. Donc, ce banc-là qui est placé dans un parc public où les gens s'arrêtent, vont attendre, reviennent. C'est comme une espèce de balai anonyme qui va devenir le témoin des fois de futilité, de scènes rocambolesques, de la vie qui passe tout simplement, de petites scénettes en fait. Donc c'est une BD qu'on pourrait qualifier de tranquille, mais qui est tout à fait dans l'esprit de ces bandes dessinées qui veulent juste montrer un peu un fil conducteur et la vie qui passe tout simplement.
Et justement, côté dessin, ambiance, il y a une clarté dans le trait, dans les expressions qui nous permettent de facilement capter ce qui se passe là.
Tout à fait, c'est très très lisible, puis c'est sûr que raconter comme ça, ça peut avoir l'air monotone, mais faut pas se fier nécessairement là, juste à la bande dessinée d'un parc, d'un banc de parc qui est tout simplement campé là. On voit les cases en gros plan, en fait, on va laisser voir l'étendue de la scène progressivement, comme un peu une caméra qui se recule tranquillement. Mm-hmm. Donc, une scène qui peut avoir l'air banale au premier regard va se transformer, en fait, en une autre situation totalement inattendue. C'est un système qui est utilisé souvent par Chabouté, mais qui est néanmoins vraiment efficace parce qu'il laisse toujours planer le doute. L'effet de surprise est souvent là. Chabouté, c'est ça, comme je disais, sème des fausses pistes, puis il joue assez malicieusement avec le lecteur, ça rend le récit dynamique, puis la qualité de son dessin, comme on parlait, très fluide, puis des qualités de personnages aussi, des expressions, toujours un tantinet glauque, c'est des personnages avec des airs assez rustres, assez brusques, mais c'est vraiment, vraiment intéressant.
Alors, à découvrir et pour se laisser emporter un peu, j'imagine, dans une certaine poésie, comme tu disais, dans un comic un peu plus rocambolesque aussi. Donc, on permet d'alterner les styles, j'imagine, d'histoire, de segment en segment.
Oui, moi j'ai trouvé un peu, j'ai trouvé qu'on avait peut-être un soupçon de poésie dans un film de Charlie Chaplin. Qui va laisser passer en fait plusieurs émotions, qui va nous amener dans des avenues qui peuvent être a priori banales, mais qui la situation change toujours au cours des pages qu'on tourne. C'est une grande bande dessinée à peu près de 330 pages, donc c'est quand même une bonne brique. Et donc je peux vous dire que c'est une bonne brique qui, oui, parle d'un parc, d'un banc de parc, mais qui a beaucoup d'autres choses, beaucoup de viande autour de l'os, si on peut dire. Ça comme ça.
Alors, ça, c'est Chabouté de bois et d'acier, c'est chez Vent d'Ouest.
Voilà.
Anne-Marie Olivier, merci beaucoup.
Merci, Raymond.
Et on se dit à dans deux semaines.
Voilà. Bonne semaine.
Bonne semaine. Alors, voilà les commentaires BD d'Anne-Marie Olivier. Et nous, on poursuit avec un autre extrait de Miss Me, un petit extrait qui s'appelle God. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, et cette semaine, nouvelle collaboration. Mathieu Place est avec nous en studio. Mathieu, bonjour.
Bonjour tout le monde, salut Raymond.
Alors en fait, il faut dire, pour dresser un peu le personnage, t'es un amateur de BD, t'as aussi fait de la BD, de l'illustration, du graphisme, et pour nous, au fil des mois, tu vas explorer la bande dessinée indépendante américaine.
Exactement. Ben en fait, pour faire une petite histoire, durant toute mon enfance, j'ai lu, comme beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs ici. J'ai lu de la bande dessinée franco-belge pour la plupart des cas. Alors, Tintin, Achille Talon, Astérix, etc. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps avant de découvrir la BD américaine, tu sais. Pour plusieurs personnes, la BD américaine, c'est les super-héros. Bon, dans mon cas aussi, là, c'était vraiment les super-héros que je voyais en tant que BD américaine. C'est le représentant principal. Par contre, évidemment, il y a beaucoup d'autres bandes dessinées qui ont été faites et c'est plus tard que j'ai découvert ça. Je dirais que c'est à peu près il y a une dizaine d'années, à la sortie de certains films dont on va parler plus tard, c'est là que j'ai commencé à découvrir la BD américaine quand il y a eu des adaptations de BD indépendantes américaines qui sont arrivées à l'écran.
Et il y a des beaux parallèles d'ailleurs à faire justement avec l'évolution de cette bande dessinée indépendante américaine et la BD indépendante ou la BD qu'on dit d'auteur entre énormes guillemets, parce que toute BD a un auteur, on s'entend, mais la BD biographique, les blogs, la BD plus expérimentale aussi. Et donc, dans le fond, il y a des beaux parallèles à faire avec d'autres genres BD qu'on a explorés depuis.
Oui, ben c'est ça. En fait, les trois auteurs dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était Robert Crumb, Daniel Close, et puis Harvey P. Carr. Et puis, bon, ces trois BDS-là font effectivement de la bande dessinée qui est très personnelle. Là, on a vu il y a quelques années dans la bande dessinée, même franco-belge, là, une émergence de beaucoup de bandes dessinées autobiographiques, très personnelles, bon, avec l'association, et puis, bon, vous aviez Trondheim, etc., qui a fait beaucoup de bandes dessinées personnelles, autobiographiques. Eh bien, ces trois auteurs-là, américains, font ça depuis, je dirais, un bon 40 ans aux États-Unis. Alors, par exemple, Robert Crumb, qui est un des...
c'est un monstre sacré de la bande dessinée.
C'est ça, exactement. Là. C'est, je me suis dit aujourd'hui, pour la première chronique, là, j'allais parler des majeurs.
Oui, ben en fait faut dire, Mathieu, il faut commencer à quelque part. Alors, pourquoi pas commencer par parler monuments, justement, quand on commence à explorer un genre, d'aller vers les incontournables, c'est naturel.
Ben, c'est ça, puis c'est un auteur qui a vraiment influencé tout le monde là, aux États-Unis. Bon, tout le monde, j'exagère peut-être un peu, mais c'est beaucoup de monde qui ont été influencés par Robert Crumb. Alors, pour ceux qui connaissent pas la petite histoire de Robert Crumb, c'est un BDiste américain qui, bon, il fait de la BD depuis qu'il est très, très, très jeune. Dans le documentaire, justement, Crumb, qui a été réalisé il y a une dizaine d'années, il nous présente ses dessins qu'il a fait là, quand il avait à peu près 4-5 ans. Et c'est déjà meilleur que bon ce que je suis capable de faire là, dans certains domaines de la bande dessinée. Et puis, bon, il a fait beaucoup de bande dessinée. Puis, à un moment donné, il s'est retrouvé à être à San Francisco à la fin des années 60. Et puis, pour ceux qui connaissent la petite histoire, eh bien, à la fin des années 60, à San Francisco, eh bien, c'était la fameuse époque Peace and Love. On avait l'émergence d'un rock progressif, expérimental, psychédélique, qui se trouvait à être aux États-Unis, à San Francisco, à cette époque-là. Et puis, Robert Crumb s'est retrouvé à être dans ce tourbillon-là. C'était un gars qui pouvait aller à des parties où il y avait Janis Joplin, les membres de Jefferson Airplane, etc.
Il était en plein cœur de la vitalité culturelle, l'effervescence culturelle de San Francisco.
Exactement. Et puis bon, là, il a commencé à expérimenter avec les drogues, etc. Et puis bon, ça a donné naissance à toute une bande dessinée assez expérimentale dans son cas. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que dans le cas de Robert Crumb, c'est que bon, il fréquentait ces gens-là, mais il faut pas s'attendre à avoir un artiste qui avait des cheveux longs et puis bon, qui avait l'appareillage hippie. Ce personnage-là, c'était un personnage qui aimait beaucoup une certaine Amérique qui était déjà morte entre guillemets à cette époque-là. Alors, c'est un gars qui est très nostalgique d'une Amérique qui précédait même la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bon, il portait un petit chapeau avec, bon, je sais pas comment le décrire, là, mais une espèce de chapeau en paille, très, très rudimentaire, une petite moustache. Bon, il portait des cheveux très courts. On croirait sortir des années 40. Mm-hmm. Alors, ce personnage-là, justement, a été influencé par la folie, puis bon, le côté psychédélique des années 60. Mais il est resté très nostalgique d'une certaine époque. Et puis bon, sa bande dessinée est très personnelle, pas dans le sens qu'il parle de lui-même, mais vraiment il parle de comment dire, il fait passer ses démons dans la bande dessinée. C'est très sexuel, très exutoire, très libérateur dans certains cas. Il y en a même qui trouvent que c'est presque sexiste tellement c'est sexuel parce que bon c'est sûr qu'en lisant ces bandes dessinées, souvent la femme est considérée comme vraiment un objet sexuel. Alors, c'est vraiment une femme qui est présentée de manière très plantureuse, très bon, on voit vraiment ses caractéristiques sexuées là, de manière t'sais, vraiment soulignée, exacerbée. Et puis bon, on a Crumb qui se présente souvent dans ces bandes dessinées là sous les traits d'un alter ego. Et puis bon, des fois il va carrément dévisser la tête de la femme, il va défaire son corps comme un robot, comme un automate, etc. Alors tu sais, c'est vraiment très très exutoire. On dirait qu'il fait passer tous ses fétiches et ses pulsions au travers de sa bande dessinée.
Et Mathieu, est-ce que c'est quelque chose qu'on mentionnait plusieurs noms d'auteurs tout à l'heure? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, exemple, chez Daniel Klaus ou chez Harvey Picker?
Oui, ben en lisant les entrevues de Daniel Klaus et puis de Harvey Picker, c'est vraiment Robert Crumb, c'est vraiment un personnage qui revient toujours en tant qu'inspiration. Alors c'est vraiment le côté personnel, c'est-à-dire d'utiliser la bande dessinée pour faire sortir ses démons, pour faire une exploration personnelle qu'on retrouve dans les œuvres de Daniel Klaus et Harvey Picker. Alors pour faire une petite description de ces deux auteurs-là, qu'il faut vraiment pas manquer si vous voulez découvrir la bande dessinée américaine indépendante. Daniel Klaus, c'est celui qui a fait l'histoire Ghost World. Alors il y a un film qui est sorti il y a quelques années par rapport à cette histoire-là. C'était bon, Ghost World avec je me souviens plus des noms des actrices, Scarlett Johansson et Tora Birch. Et bon, c'est un film qui a quand même eu une grande diffusion, qui est un excellent film. Ça parle de deux adolescentes qui sont bon, qui sont à la fin de leur études secondaires et puis qui bon, qui sont dans l'Amérique contemporaine et puis qui sont un peu perdues là au travers de ça. Et Daniel Klaus fait beaucoup d'histoires avec des personnages qui ont l'air un peu perdus dans une Amérique contemporaine, qui a un peu perdu ses repères, si vous voulez. Alors, on retrouve la nostalgie de Robert Crumb. Alors, l'idée que... C'était mieux avant. Bon, c'est sûr qu'on peut se perdre là, dans cette idée-là. On le sait tous. Là, on idéalise là, un certain passé. Mais encore une fois, Daniel Klaus imagine une Amérique avant toutes les technologies, avant bon, l'espèce de culture qu'on connaît maintenant, et bon, il s'imagine que c'était mieux. Alors, tous ces personnages sont assez perdus, et puis il prend aussi l'habitude de faire beaucoup de critiques par rapport à ces personnages, mais c'est toujours contourné. Dans une entrevue toujours de Daniel Klaus, j'ai vu que, bon, Daniel Klaus, il y a un dessin qui est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'il va détailler ses personnages, là, mais vraiment de manière assez maniaque. Et puis, dans cette entrevue-là que j'ai lue, il disait que ce détail-là, c'était vraiment pour... c'était presque une agression contre les humains en tant que tel.
Alors, les mots, une misanthropie qui
c'est
est
ça,
à peine voilée.
C'est ça, exactement, encore une fois. Alors, tu sais, c'est vraiment en détaillant les humains, en détaillant tous leurs petits pores de peau, tous les poils qu'ils peuvent bien avoir dans leur visage, c'est pour décrire une certaine laideur du genre humain. Alors encore la misanthropie, Daniel Klaus est un outsider comme Robert Crumb, comme Harvey Picker d'une certaine manière, mais en utilisant la bande dessinée, il réussit à présenter une espèce de son monde et puis son monde idéalisé là, qui est en porte-à-faux avec le monde contemporain. Là.
Et en fait, pour avoir vu le film American Splendor, justement, qui détaille Harvey Picker, son œuvre. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de points communs. On parle de misanthropie, on parle d'un type qui est aussi un peu marginal à certains degrés, qui est un peu déprimé aussi. Il y a des beaux parallèles à faire entre lui et Klaus, là, j'ai l'impression.
Ben, c'est ça. Harvey Picker, notre troisième personnage, c'est un personnage qui pense encore, qui croit à une Amérique passée, qui était meilleure. Il aime beaucoup le jazz, qui aime beaucoup cette culture-là, et puis qui retrouve pas ces repères-là dans la culture contemporaine. Puis dans ses semblables. Alors il voit ses semblables, puis il a l'impression que c'est vraiment des gens qui ont perdu leur fil. Et puis bon, Harvey Picker, contrairement aux deux autres, c'est une personne qui fait les scénarios de ses bandes dessinées, mais qui fait pas le dessin de ses bandes dessinées. Mais encore une fois, c'est une personne qui parle d'une manière très personnelle, mais là, contrairement aux autres, il va parler vraiment de sa vie très réaliste, d'une manière très réaliste. Là, il va vraiment s'asseoir, puis il va on va voir son sa vie de commis dans un hôpital pour vétérans, et puis on va vraiment voir comment il vit sa vie d'outsider, là, si on veut. Alors ces trois personnes là, bon, Robert Crumb, Daniel Klaus et Harvey Peaker, c'est vraiment trois monuments de la bande dessinée indépendante américaine, et c'est vraiment trois personnes qui vont vraiment transformer à leur époque la bande dessinée, puis vont la rendre très personnelle, très quand même assez ambitieuse d'une certaine manière. Ça va donner la permission aux auteurs américains indépendants d'utiliser la bande dessinée pour des choses ambitieuses comme présenter l'Amérique, présenter leur vie, présenter leur souhait.
Comme tu dis, sortir un peu du sentier battu, entre guillemets, des super-héros, des comics, offrir un autre style de BD, et c'est des gens qui, quand on parle bande dessinée autant américaine qu'internationale, c'est des gens qui ont une influence extrêmement vaste. Il y a énormément d'auteurs qui aujourd'hui se réclament notamment de Peaker, de Crumb, de Klaus également.
Là. Oui, effectivement. Justement, c'est ça, le côté expérimental dans certains cas, et puis le côté autobiographique dans d'autres. Tu sais, il y en a souvent qui disent, en art, il faut que tu parles de ce que tu connais. Et puis bon, ces trois personnes-là ont suivi cette règle-là. Ils se sont dit, je vais parler de ma vie, je vais parler de mes pulsions, je vais parler de ce qui me fait vibrer. Tu sais.
Et Mathieu Place, de ces auteurs-là, est-ce que tu aurais quelques titres à nous suggérer pour Crumb, pour Klaus, pour Peaker?
Oui, alors déjà, il y a les trois films dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, si vous voulez découvrir Crumb, eh bien, il y a le fameux film Crumb, C-R-U-M-B, qui est incroyable. Alors, même en tant que documentaire, c'est assez exceptionnel parce que c'est vraiment la vie intime de ce personnage-là. On rencontre sa famille et puis on se rend compte que, en tout cas, peut-être que Robert Crumb a utilisé sa bande dessinée pour pouvoir sortir de cette vie-là. On a Ghost World, le film de l'histoire de Daniel Klaus, qui est très bon aussi, comique. C'est une comédie d'adolescent hors du commun. Ensuite de ça, on a American Splendor, qui est inspiré de la vie et puis de l'œuvre de Harvey Peaker, qui est très bonne aussi, qui est sortie il y a pas très longtemps. Trois excellents films, et pour ce qui est des bandes dessinées, cherchez les recueils de Crumb. Alors, toutes ces bandes dessinées qui sont sorties dans différents formats sont disponibles en recueil. Daniel Klaus, eh bien, cherchez Ghost World, mais il y a aussi les recueils Eight Ball, et enfin, bon, Harvey Peaker, c'est la bande dessinée American Splendor, qui est sortie en format individuel, comme les super-héros, mais aussi en recueil que vous pouvez retrouver sur le marché. Alors, bonne découverte, ça vaut la peine d'y voir.
Et, en fait, si on veut te suivre, justement, dans l'exploration de la bande dessinée indépendante américaine, on prend le même point de départ que toi. On lit ces titres-là, on les explore, et nous, Mathieu, on se retrouve le mois prochain pour voir où tu en es dans ta découverte, donc, de cette BD-là. Merci.
Ça va faire plaisir. À la prochaine.
Alors voilà, c'était Mathieu Place, un nouveau collaborateur ici à La Vie en BD. Voilà, autre extrait de Miss Mai. Je vous rappelle d'ailleurs plusieurs manières de suivre La Vie en BD, notamment nos blogs pour les podcasts, pour quelques informations sur l'actualité BD à Québec, c'est lavieenbd.wordpress.com. Également, vous avez mon blog BD personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et aussi, il y a notre page Facebook, vous avez qu'à chercher La Vie en BD, cliquez j'aime et vous allez être informé du menu des émissions à venir. En entre autres choses. Petite actualité avant d'aller en pause. On a appris, évidemment, l'année dernière que Uderzo ne reviendrait pas au prochain tome d'Astérix, mais que la BD se poursuivrait sans lui. On a appris maintenant qui serait donc le dessinateur. On connaissait déjà l'auteur depuis cet été. L'auteur, évidemment, Jean-Yves Ferry, co-auteur du Retour à la Terre avec Manu Larsonnet, auteur de De Gaulle à la plage. Et pour le dessin, eh bien, finalement, c'est officiel, ce sera Didier Conrad qui nous a offert notamment Les Innommables, Marsukids, etc. Donc, ce sont eux qui vont dessiner le 35e album de la série Astérix, dont la date de sortie est prévue pour la fin 2013. Évidemment, en attendant, en France, il y a le film qui va sortir en octobre et, évidemment, le film qui cheminera éventuellement sur nos écrans. Alors voilà, on prend une courte pause et au retour, Michel Giguère et Mini Kim.
Le 18 octobre prochain, préparez-vous à entrer dans l'univers du rock progressif de Emerson, Lake & Palmer avec le groupe Turkus Live. Venez faire l'expérience live sur scène des albums Pictures at an Exhibition et de l'album Brain Salad Surgery. Du ELP avec des vrais instruments de l'époque. Le 18 octobre au Centre d'art La Chapelle, billets sur billettech, tarkuslive.com.
Du 12 au 14 octobre, pendant le festival Québec en toutes lettres, le Studio P accueille Les Enfants d'Asimov, expo vente sur la science-fiction et le fantasy. Bouquinez le fonds disponible, rencontrez des collectionneurs, assistez à des tables rondes et lancements. Le Studio P est situé au 280 rue Saint-Joseph-Est. Pour plus d'informations, visitez librairiepantoute.com.
Voici les livres qui ont marqué Pantoute.
De guerre interstellaire en saga magique.
Le guide du routard galactique de Douglas Adams.
Demain les chiens de Clifford D. Simak.
Le Seigneur des Anneaux de Tolkien.
Le Trône de Fer de G.R.R. Martin.
Pantoute, votre libraire depuis 40 ans.
Ici Olivia Vu, je vous invite le samedi 13 octobre à écouter l'émission spéciale dans le cadre de Québec en toutes lettres qui célèbre cette année Isaac Asimov. Dès 13h, venez vous faire enchanter l'esprit avec nos invités, les conteurs Djihad Darwish et François Deveau, ainsi que l'écrivain jeunesse Rascal et Paul Duboucher, responsables de la collection musique de Gallimard Jeunesse.
Une présentation de l'Institut canadien de Québec en collaboration avec la Caisse des Jardins du Centre-Ville de Québec, CKRL et la Ville de Québec.
Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui.
Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour La Vie en BD ici sur les ondes de CKRL 89.1 et on porte maintenant nos regards sur une bande dessinée jeunesse qui est apparue tout récemment. Ça s'appelle Couette, tome 1, donc Tombé du ciel, c'est de Séverine Gauthier et Mini Kim. Et pour nous en parler, pour nous présenter justement cet univers-là, ben l'illustratrice, la dessinatrice Mini Kim est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et plutôt que de décrire et de présenter moi-même l'univers de Couette, je vous laisserai peut-être le faire en quelques mots. Là, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que c'est Couette?
Alors Couette, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née de la dernière pluie. Donc en fait, elle arrive sur Terre un peu, on ne sait pas trop comment, et puis elle découvre en fait le monde avec des yeux un peu tout neufs, des yeux très naïfs, et ça donne plein de petites situations cocasses.
Et j'avais lu même dans une critique à quelque part que Couette, c'était un peu un concentré de bonheur, et c'est une expression que j'avais bien aimée en fait.
Ah, merci.
C'est une BD qui est très positive, qui est très enjouée, somme toute, là.
Oui, ça c'est vraiment voulu, quoi. On a vraiment envie de passer un message positif, quoi. Il y a assez de choses très sombres dans la vie de tous les jours.
Et d'ailleurs, l'expression, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est née de la dernière pluie, c'est littéral, en fait. On joue un peu avec l'univers, avec les interprétations. Il y a un moment où elle ouvre la porte d'un bâtiment qui est peut-être un peu poussiéreux. Il y a littéralement des moutons qui sortent, référence, j'imagine, aux moutons de poussière. Donc, il y a une belle magie à l'intérieur de tout ça.
Voilà, c'est vrai qu'on a un peu joué sur les jeux de mots, à les rendre un peu visuels, comme ça.
Qu'est-ce qui vous a amené vers cette piste-là, vers cette idée d'univers, justement, de personnage?
Ben, en fait, Quet, elle est née à peu près, je dirais, en 2005. Et à l'époque, c'était vraiment des dessins que je faisais. J'avais vraiment créé tout l'univers, les décors, les moutons, les personnages et tout ça. Et j'avais fait quelques petites planches, muettes aussi, mais j'arrivais pas à aller plus loin que ça. Et donc, j'avais laissé le projet de côté. Et puis... c'était en 2010, j'avais envie de reprendre le projet et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'associe avec une scénariste qui pourrait peut-être essayer d'aller plus loin dans l'univers là où moi j'étais bloquée. Et donc c'est mon éditrice chez Dargaud qui m'a proposé de travailler avec Séverine Gauthier que je connaissais. Mmh. Et donc on s'est mis en contact, puis ça a vraiment tout de suite accroché et puis... on est parti sur un scénario qu'elle a écrit.
Donc, elle a réussi à un peu cadrer, caser, organiser cet univers imaginaire que vous aviez en tête, mais que vous n'arrivez pas à orienter, dans le fond.
Tout à fait. Elle a vraiment repris toutes les planches que j'avais dessinées il y a 5-6 ans, et puis elle est partie de ça, et elle a vraiment créé, tricoté tout un monde autour de ça, et j'étais vraiment contente, parce que ça restait vraiment très fidèle à l'idée que j'avais au départ.
Et vous l'avez mentionné, en fait, les premières planches étaient muettes. La BD qu'on a sous les yeux, elle est presque muette aussi. Je pense que j'ai compté une vingtaine de lignes. Qu'est-ce qui a amené à ce choix-là?
Alors là, je pense que comme j'ai dessiné des choses muettes au début, peut-être que Séverine est restée vraiment là-dessus pour être cohérent avec ce que j'avais fait au départ. Mmh. Et je pense que sur le tome 2, on est à peu près pareil, très très peu de texte. Mais ça fonctionne très bien et ça permet à des enfants qui savent pas lire de pouvoir suivre un peu les aventures.
Exactement, en fait. Et en même temps, j'imagine que de votre côté, le défi que vous relevez, à mon sens d'ailleurs, c'est de faire justement un dessin qui est expressif, qui est clair, où l'action est clairement déterminée aussi, là.
En fait, c'est vraiment ce que je préfère faire en BD d'ailleurs, c'est décomposer les cases, dessiner plusieurs mimiques de visage, parce qu'en fait je viens de l'animation et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et Séverine a vraiment compris ça et elle a vraiment écrit en fonction de ça.
Et justement, de quelle manière on s'assure en tant que dessinateur que tout ça est cohérent, que notre dessin, notre expression est claire, que tout en ressort dans le fond, que tout est perméable au bout du compte?
Ah ben moi j'ai une super technique, j'ai ma fille qui a 7-8 ans. Et en général, elle relit tout ce que je fais. Et dès qu'elle comprend pas quelque chose, eh ben, je sais qu'il faut que je refasse parce que c'est pas passé, quoi.
Effectivement, c'est toujours pratique d'avoir un enfant sous la main. En plus, quand c'est presque plus, ça fait partie du public cible, comme on dit, là.
Exactement.
Et d'ailleurs, j'imagine que dans un sens, on dit que c'est à la fois un bon défi et un plaisir de travailler pour les jeunes, de donner dans la littérature autant que dans les produits jeunesse, parce que c'est un public, quand il aime, il aime. Quand il aime pas, il est clair aussi là-dessus. C'est toujours un bon défi, justement, de l'accompagner un peu, de l'amener à apprécier, à découvrir cette lecture-là.
Oui, ça c'est clair, ouais. C'est vrai que, comme vous dites, c'est souvent tout blanc, tout noir. Hein.
Et qu'est-ce que vous a amené à choisir d'écrire pour ce public-là, justement?
Alors là, je me suis pas posé la question, hein. C'est vraiment les dessins qui sont venus tout seuls. Le personnage s'est imposé comme ça, j'ai commencé à le dessiner, et puis de plus en plus, je me suis vraiment pas posé la question jeunesse ou pas jeunesse, j'ai dessiné ce que j'avais envie de faire.
Parce que c'est pas votre premier album non plus dans le côté jeunesse non plus, là, je pense.
Oui, j'avais fait une autre série, mais c'était quand même pour les plus âgés, je dirais la tranche d'âge au-dessus de 8 à 12 ans.
Okay.
Il y avait vraiment beaucoup de textes, beaucoup de pages, une grosse pagination.
Et c'est ça, justement, quand on recadre, quand on dit bon, qu'on vise un peu plus jeune, mais justement en enlevant un peu de texte, en faisant, est-ce que ça change un peu justement notre manière de créer, en se disant ben ok, c'est pour telle tranche d'âge, c'est pour tel type de jeune que j'écris au départ, là.
Ok, en fait là je pense que c'est plutôt l'éditeur qui a ciblé, okay. Qui a ciblé le public. On l'a laissé faire ce travail, nous on a fait notre série, quoi.
C'est ça, parce que je suis en train de me dire, sinon ça fait beaucoup de questions, hein, quand on dessine, beaucoup d'éléments à considérer aussi, là, c'est...
Oui.
Et justement, en fait, bon, le premier tome qu'on découvre, donc Tombé du ciel, sert beaucoup à introduire les protagonistes, à mettre en place l'univers. Donc, on découvre Quet, on découvre Bidou qui va être un peu son acolyte. Donc, c'est un peu de mettre en place tout ça également?
Oui, c'est ça, oui. Et puis d'ailleurs, dans le tome 2 sera un peu plus centré autour de l'amitié de Couette et Bidou. On va en découvrir plus sur lui et où il vit, ses amis, tout ça. Et Couette va vraiment interagir dans son univers.
Et le côté très simple du quotidien aussi qu'on découvre dans Tomber du ciel, c'est un peu lié, j'imagine, au fait que le travail de départ s'est fait un peu avec des planches, avec des idées, avec des scénettes, avec des flashs que vous aviez eus au fil des années.
Ouais, je sais pas, ça serait plutôt une question à poser à la scénariste. Je sais pas comment elle a amené les choses.
Et donc l'important c'est que ça se tienne, ça coule bien et au bout du compte que le dessin aussi vienne renforcer un peu tout ça, vienne créer l'ambiance dans le fond. On parlait de bonheur au départ, donc faut qu'il y ait une joie qui ressorte un peu de tous ces traits là.
Oui, c'est ça, complètement, oui.
Et qu'est-ce qui mène un peu dans votre travail côté dessin? Qu'est-ce qui domine un peu? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre? Parce que c'est très coloré, c'est des traits ronds, il y a presque un côté manga aussi. Donc, quelles seraient un peu vos influences, vos orientations là-dessus?
Moi, mes influences, ça vient vraiment de l'animation, du dessin animé. J'ai vraiment regardé beaucoup d'animés quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Des dessins animés japonais pour la plupart. Donc je pense que mes influences, ça viennent vraiment de là, quoi. Je regardais des animes de Magical Girl, d'histoires, par exemple, je sais pas, des choses comme Tom Sawyer, ça venait vraiment d'animation japonaise des années 80, en fait.
Et en même temps, j'ai l'impression, je sais pas quel regard vous portez sur ce style-là, mais je parlais de style expressif aussi, d'expression claire. J'ai l'impression que ça se prête bien à ça, avec des expressions parfois un peu exagérées, des traits définis, etc. Donc ça se prête un peu au type d'univers que vous cherchez à construire.
Oui, c'est vrai, oui.
Et comment se passe un peu le travail sur les tomes qui s'en viennent, sur le 2, le 3, comment ça se construit?
Ben, le tome 2 est déjà complètement fini. Mm-hmm. Et là, je commence le tome 3 tout juste. Et j'ai eu le scénario là et je vais commencer ça cette semaine et voilà.
Et déjà un échéancier précis de sortie pour le tome 2, est-ce qu'on aura longtemps à attendre?
Non, je pense que ça va venir au printemps là.
Ah donc.
Printemps 2013.
Ah ben, donc c'est très proche comme on dit.
Mais, oui, oui.
Alors, on peut se lancer dans l'univers de Couette avec ce premier tome, donc Couette tombée du ciel. Minikim, merci.
Merci.
Et au plaisir.
Au plaisir.
Alors ben voilà, donc tout ça c'est chez Dargo. D'ailleurs, on repart en musique et au retour on jase avec Michel Giguère. Toujours à la vie en BD et la semaine dernière, on a parlé un peu de cet événement, de ce festival Québec en toutes lettres et de ce spectacle qui avait lieu hier, 1000 planètes autour de l'œuvre de Mézières, autour de la science-fiction. Et évidemment, tout ça parce que Jean-Claude Mézières vient ici à Québec. Il est à Québec au moment où l'on se parle. On aura l'occasion de le rencontrer ici à l'émission notamment. Il y a d'autres gens qui auront l'occasion d'explorer son œuvre de différentes façons, sous différents axes. Et l'une des personnes qui va avoir l'occasion de l'explorer en sa compagnie, ben c'est notre collaborateur Michel Giguère. Bonjour.
Salut Raymond, tu me fais rire. Ça fait 2 mois que je l'explore. Je suis dedans là, jusqu'aux confins de l'univers. Hey, d'abord, bien content de revenir à ce micro.
Inversement, bien content que tu reviennes.
Parfait.
Et justement, on plonge dans l'œuvre de Mézières. En fait, Michel, tu as lu à peu près tous les Valérians, les biographies, des analyses. Et peut-être, en fait, pour commencer, pour ceux qui disent, Mézières, Valérian, ça leur dit quelque chose, mais c'est une série parmi tant d'autres. Pourquoi c'est majeur que cet auteur-là soit à Québec maintenant? Pourquoi on en fait tout un cas?
Écoutez, si vous participez à aucune des activités, vous allez le regretter le reste de vos jours. Non, je le conseille aux gens qui sont même pas nécessairement des amateurs de science-fiction, ou alors des amateurs de science-fiction, mais pas nécessairement des amateurs de bande dessinée. Ou c'est un type qui semble tout à fait sympathique, mais c'est parce que être convié à une des activités, bon, c'est sûr que moi je prêche pour ma paroisse, entre autres, parce que la causerie, l'entretien devant le public, ça c'est pour le grand public, c'est tout à fait gratuit. Et puis, on va voyager, puis avec Valérian, ben on peut parler de voyages spatio-temporels, parce que Valérian est un agent spatio-temporel, expression créée par Christin et Mézières d'ailleurs. Et puis on va survoler son parcours, mais c'est un voyage, ça frappe l'imaginaire comme la science-fiction peut le faire, là. Écoute, pour débuter sa carrière, Mézières a été embauché au journal Pilote par René Goscinny. Je vais présenter le soir même une photo de groupe. Et ses petits camarades au journal Pilote s'appelaient Fred, Giraud, Uderzo, Gottlieb, Claire Bretéché. Regarde, ça finit plus, là. C'était la grande époque. C'est autour de Goscinny. La plupart des BDistes, des créateurs qui allaient devenir les grands noms de la BD franco-belge dans les années à venir et qui étaient en train d'inventer la BD pour adultes.
Donc c'est un des pionniers de la BD franco-belge.
Ben non, parce que les pionniers, il faudrait remonter plus loin. C'est juste qu'il est
de l'âge d'or, mettons.
Écoute, c'est ça. C'est un de la jeune génération là qui a été justement qui était l'autre génération après les Goscinny et compagnie, et qui était là pendant cet âge d'or là. Et pour ce qui est de la science-fiction, c'est pas non plus la première série, mais il est arrivé avec. En fait, c'est d'abord le travail avec son ami d'enfance, Pierre Christin, scénariste intuitif et inspiré. Intuitif parce que il a souvent été avant-gardiste, en avant sur son temps, très sensible aux problèmes dans le monde et à des choses. Il a mis dans des fictions des choses qui sont survenues après coup, comme d'autres auteurs de science-fiction. Bref, ce sont deux grands auteurs de science-fiction.
Oui, c'est ça. Au-delà de la BD, au-delà de l'élément visuel, si on y va plus brut, le texte, l'idée, c'est de la science-fiction à l'égal d'autres grands auteurs de l'époque.
Et selon les albums, qui d'abord entame la série avec quelque chose d'un peu post-apocalyptique, teinté par la guerre froide, parce que ça commence en 67, là. Et puis, après coup, toujours sensible à l'actualité ou devançant l'actualité. Donc, à un moment donné, on se rend compte que Tchernobyl est pas loin, la menace de l'énergie nucléaire, l'écologie. Même parfois, on peut revenir sur des événements historiques, comme à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe sur une planète et qui rappelle vraiment le sort réservé aux Amérindiens dans les réserves en Amérique du Nord. Doit-on dire qu'il y a un mélange, une espèce de mariage d'équilibre entre l'humour et des sujets d'une très grande gravité derrière le ton léger, là, en apparence, là. Par ailleurs aussi, outre l'humour puis la gravité, une espèce d'humanisme qui fait que même si on se promène aux quatre coins de l'univers et même si on passe par une création du tandem Christin-Mézières, quelque chose qu'ils ont appelé Point Central, qui est une trouvaille extraordinaire sur le plan fictionnel, là, ils ont imaginé un agglomérat de vaisseaux spatiaux qui se juxtaposent les uns aux autres, mais qui, d'année en année, de décennie en décennie, grossit constamment et finit par former une espèce de planète artificielle où tout le monde peut communiquer d'un vaisseau à l'autre. Et il y a des bas-fonds, il y a des coins noirs, mais sinon, c'est comme l'ONU, c'est tout le monde qui s'en va là pour rencontrer les autres habitants des quatre coins de l'univers. Et jamais ça verse, jamais on tombe dans le piège de la xénophobie. T'as beau, tu sais, Valérian et Laureline vont passer leurs vacances là, entourés au resto et etc. à l'hôtel là, de gens avec des trompes puis des tentacules, puis ils leur parlent comme, tu sais, je veux dire, il y a pas le moindre soupçon de xénophobie. Bon, tu me diras, c'est des êtres imaginaires, mais la xénophobie, ce n'est pas imaginaire. Et puis enfin, ben j'ai mentionné Laureline, qui est un des personnages très forts. Qui a été un des premiers personnages super intéressants en tant que personnage féminin.
Parce qu'on n'avait pas tant que ça dans la BD. Il y en a quelques-uns marquants, mais ils sont pas légion, là.
Et puis sinon, ben, c'est des personnages qui carburaient soit à la sensualité comme Barbarella pour rester dans la science-fiction, ou qui était assez sage comme Yoko Tsuno, alors que Laureline, elle a un sale caractère, c'est la plus idéaliste des deux, c'est la plus fonceuse. Bon, cela dit, tu me diras que oui, elle était sexy, puis que, ben, elle l'est encore, et que Mézière a largement usé de ça, bien sûr. Ça enlève rien au plaisir, mais il reste que c'est un personnage hyper fort, qui prend des initiatives, qui fait avancer. C'est une vraie héroïne dans le sens où elle fait avancer le récit.
Et ça me fascine toujours quand on parle de séries comme ça, qui durent justement dans le temps. Oui. Et je pense que tout à l'heure, t'as mis un peu un doigt peut-être, ou enfin, on vient de mettre plusieurs doigts sur des éléments justement qui expliquent aussi la durée d'une série comme ça. Et une série qui, oui, est peut-être teintée un peu de l'époque dans laquelle elle a été rédigée, mais qui a su aussi évoluer, j'imagine, sur le temps.
Avec les lecteurs
avec
aussi.
Les lecteurs, c'est ça.
D'abord, faut dire que, à l'origine, Mézière était influencé par deux grands pôles, Franquin et toute la gang de Mad. Donc, les premiers albums, surtout le premier, graphiquement, est un peu plus humoristique. Et puis, son dessin va devenir un peu plus réaliste, sans tomber dans la virtuosité puis le tape à l'œil. Mézière, c'est quelqu'un qui s'applique à tout mettre dans la narration, où son dessin est au service de l'histoire. Ça n'empêche pas qu'il y a des planches magnifiques qu'on va voir sur écran. C'est aussi un illustrateur majeur. Il y a plusieurs de ses couvertures qui sont très belles. Et puis, où en étais-je?
Donc, les ingrédients, le succès, la force de...
Oui, voilà, ben c'est ça. C'est que ils ont à un moment donné vieilli avec le lectorat. Ils sont arrivés avec une espèce de cycle où ça a comme été provoqué par le fait que le premier album parle d'une espèce d'apocalypse. Il est survenu une catastrophe atomique sur la Terre qui fait qu'il y a une espèce de régression sociale. Et puis, la Terre va comme renaître de ses cendres et c'est de là que la nouvelle capitale va émerger, Galaxy City, qui va envoyer des agents spatio-temporels s'assurer qu'il n'y a rien qui menace la Terre, ni dans le futur, ni dans le passé, ni aux confins de l'espace. C'est comme le point de départ. Mais en 67, ils ont imaginé que cette catastrophe-là surviendrait en 86, sans se douter qu'en 86, ils seraient encore en train de raconter les voyages et les aventures de Valérian. Ils ont été rattrapés par leur propre fiction.
Ils n'ont pas mis assez loin, donc...
Il fallait qu'ils trouvent une solution. Mm-hmm. Et puis là, ça devient d'une très grande complexité que je vous expliquerai pas à ce micro-là, mais faut lire la série dans l'ordre.
Et ils ont réussi à redémêler ça.
Une espèce de gymnastique temporelle de retourner dans le passé pour changer le futur et tout justifier ça, mais très habilement. Et là, il va y avoir vraiment un cycle au milieu de la série qui est un petit peu le summum de la série, tant sur le plan graphique que narratif que scénaristique.
Et là, on se trouve dans quelles années à peu près?
Oh, ma foi, ça va être à la fin des années 70, début 80. Et puis, ça va devenir très particulier parce que, alors que dès le tome 2 de la série, ils vont être des précurseurs du space opéra avec des trucs très extraterrestres, très, 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 très imaginatifs comme la guerre des étoiles, là, ils vont nous arriver avec quelque chose de beaucoup plus ancré dans le sort de la planète Terre. Et donc, on va faire des allers-retours entre l'espace, entre le futur et le présent, mais un présent sur la Terre, donc à Paris, à New York, aujourd'hui. Et là, Mézière va se mettre à dessiner des trucs très contemporains et dans un tout autre univers et un tout autre ton beaucoup plus mature.
Et quand on pense à l'univers de Mézières aussi, Michel Giguère, on peut sortir même de la bande dessinée. C'est un univers que beaucoup ont vu peut-être sans le savoir au cinéma. On pense au Cinquième élément de Luc Besson. C'est lui qui a imaginé l'aspect visuel de ça. Et si Besson a dit, ben moi je veux Mézières, c'est pas rien non plus. Là.
C'est-tu le point de départ de tout ça?
Vas-y.
C'est que... Ben, c'est sûr que Besson rêvait de faire un grand film de science-fiction qui irait jouer dans les plates-bandes d'Hollywood, là. Donc, il a fait un film ultra-hollywoodien. Mais, en même temps, du coup, il était bien content de demander la collaboration et de Moebius et de Mézière parce qu'il était tout à fait conscient, parce que c'est patent, que George Lucas avait largement... George Lucas ou son équipe, ses chefs décorateurs, ou peu importe. Mais on aura sur écran, lors du rendez-vous de mercredi prochain, un espèce de montage d'images qui te montre plusieurs images, plusieurs personnages ou vaisseaux de la guerre des étoiles, de la série de films. Et en parallèle, les illustrations de Mézière qui sont antérieures au film. Il y a des limites aux coïncidences et au hasard.
Donc, il y a des gens qui avaient lu là, quelque part.
Voilà. Donc, Besson a voulu remettre les horloges, les montres à l'heure, parce que jamais George Lucas avait reconnu l'apport créatif de Mézière à cette En fait, on parle de représentation, hein, parce qu'on n'est plus dans le roman de science-fiction. On est dans les grands succès du cinéma des années 70-80. Et on est là en bande dessinée. Donc, il y a une question de représenter cet imaginaire-là en images.
Ça, et que ça se tienne aussi. Je veux dire que ça puisse voler pour vrai, pas juste sur
voilà.
papier.
Oui, puis que ce soit à la fois attrayant et plausible, tu sais. Uh-huh. Et Mézières a été un pionnier à ce niveau-là. Et là, Besson, comme ça, pouvait comme rendre le juste hommage à Mézières et en faire un collaborateur officiel et le remettre de plein pied dans l'univers du cinéma. Cela dit aussi, il y a eu toutes des tentatives de transposition de la série Valérian en dessin animé qui ont été plus ou moins convaincante. Mais vive la série BD.
Oui, en fait, c'est le genre de série à découvrir qui est disponible un peu partout. Je vous envoie dans les bibliothèques à Québec. Il y en
a à
la pelletée. Donc, il s'agit de se lancer. Et c'est le genre de bande dessinée aussi qui vieillit bien. Globalement, en fait, ça vieillit quand même assez bien.
Tant sur le ton que graphiquement. Tout à fait, parce que ça n'a jamais été très ancré dans une mode du moment. Jamais. Et puis, il y avait une espèce d'humilité du dessinateur qui a permis ça, le fait que ça vieillisse bien, je trouve. Et puis, pour finir, les gens qui, justement, aiment le dessin en soi, sans peut-être se lancer dans une saga, ou alors qui veulent compléter la saga de Valérian, qui quand même compte 20 tomes, il y a deux albums. Ça s'appelle Les Extras de Mézières 1 et 2. Le deuxième, c'est Le Cinquième Élément de Besson. Les dessins préparatoires, des esquisses, des illustrations couleurs. Vraiment, on voit le mode de collaboration entre les deux, son apport au film. L'autre, Les Extras de Mézières 1, c'est toutes sortes d'illustrations pour des affiches de festivals, toutes sortes de trucs en marge de sa série de BD. Donc, vous allez voir un tas de choses qu'on n'a pas vues souvent, qui sont magnifiques.
Et donc, ce sera l'occasion, en fait, de plonger aussi. Bon, oui, il y a les livres et il y a la rencontre, tu l'as mentionné, Michel.
Voilà.
Mercredi prochain, donc, le 17 octobre, c'est à 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy.
C'est gratuit.
Et avec des planches, de la réflexion.
Sur écran.
Mézières qui sera là pour expliquer, pour discuter, raconter. Dialoguer, raconter.
En fait, on va manquer de temps encore. Aïe, aïe, aïe.
Probablement.
Mais si vous avez un empêchement mercredi, d'abord, sachez que vous n'avez pas besoin de réserver. Si vous ne pouvez vous présenter, sachez qu'à la bibliothèque Gabriel-Leroy, encore, il y a une exposition et de ses illustrations et de ses planches, une sélection, ainsi que des figurines originales.
Donc, ça, c'est des expositions. Il y a plusieurs activités Mézières, justement, aussi, dans le cadre du Festival Québec en
Toutes Lettres. Une qui était hier, malheureusement.
Oui, Mille Planètes, malheureusement. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Alors, allez sur québecentoutelettres.com. Vous allez voir l'intégrale de la programmation. On vous invite à en profiter et à profiter au maximum de la présence de cet auteur-là. Je pense, Michel Giguère, t'as bien mis de l'avant l'importance de Mézières pour la BD, l'importance de sa présence ici. Alors, beaucoup d'invitations qui sont lancées aux auditeurs auditrices.
Ça me rend un peu fébrile. J'ai bien hâte.
Et moi, même puisqu'on aura l'occasion de le rencontrer ici à La Vie en BD, une entrevue qui sera diffusée au fil des prochaines semaines. Michel Giguère, merci beaucoup.
À la prochaine.
À la prochaine.
Merci Raymond.
Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours des grosses émissions pour vous. La semaine prochaine, notamment, on va parler d'Impro BD, une ligue d'Impro BD qui est lancée à Québec. Un premier match à la fin octobre. On rencontrera des joueurs, des dessinateurs, des organisateurs. Également, la visite de JP Perrault qui a lancé une série qui s'appelle Fearless Man, inspirée des comics américains. Alors ça, c'est pour la semaine prochaine, ça et plus. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ici sur les ondes du 89.1 CKRL.